Vous êtes toujours sur Radio Vassivière dans le jeu du dictionnaire. Et comme hier, nous n'avons pas d'auditeurs qui appellent, mais nous avons des visiteurs qui viennent nous voir directement sur le festival Parole de Conteur. Et nous avons quelqu'un qui a trouvé la bonne réponse. Nous avons Colin. Bonjour Colin.
Bonjour.
Tu as trouvé la bonne réponse. Alors attendez, je vais quand même rappeler avant la définition. Nous cherchions un nom masculin qui est un poète lyrique des 12e et 13e siècles qui composait des œuvres dans une des langues d'oc. Je vous avais donné un indice qu'à la même époque, son équivalent en langue d'oil s'appelait le trouvère. Et Colin, la réponse est...
Le trou badour.
Voilà. Tu as gagné le roman Les Amantes du Clos Jacquin, paru aux éditions La Vétizou de James Priette. Bravo Colin. Et c'est une excellente transition parce qu'en fait, coïncidence, nous avons enregistré hier des contes aux scènes ouvertes qui ont lieu tous les après-midi sur le festival et nous comptions en diffuser un aujourd'hui et je vous assure qu'on n'a pas fait exprès mais c'est ton conte car tu es passé hier sur la scène ouverte et oui. Nous avons enregistré ton histoire. C'était laquelle ?
C'était l'histoire de la corde transmise par les Vacabanes.
D'accord, moi j'avais noté ça comme l'histoire du peuple qui marche.
Oui, bah c'est moi qui donne les noms parce que je connais pas les titres, alors j'invente des titres.
C'est qu'il y en a plusieurs en fait, c'est une épopée de contes et celle-là c'est l'histoire de la corde, des Vacabanes quoi. Voilà.
Super, et tu peux peut-être du coup nous pourquoi t'as choisi cette histoire, nous raconter un peu peut-être la genèse de ta relation avec ce conte.
Waouh, et bah ça c'est une histoire en fait qu'on a retrouvée avec un ami en cours de linguistique. Moi j'étais en cours de linguistique à Rouen et lui il était professeur de musique et on voulait chacun faire un projet autour du conte et en faisant nos recherches on est tombé là-dessus, ce peuple-là qui s'appelle les Vacabanes et qui serait le peuple qui a donné son nom au mot vagabond. Et donc on est tombé sur plusieurs histoires qu'on a essayé de traduire tous les deux. Et cette histoire-là, l'histoire de la corde, ça doit être la deuxième qu'on a sortie, après l'histoire de Toulmot, le père des pères. Et voilà, bon, moi j'ai essayé de la retranscrire comme je pouvais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas raconté vraiment. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous plaira du coup.
Mais c'est une histoire vraie en fait, c'est inspiré de...
Elles sont toutes vraies, hein.
Ouais, c'est
bien
des...
sûr,
oui,
toutes
après,
les
oui,
histoires
c'est
sont
vrai,
vraies.
Oui, c'est vrai.
Je ne vois pas quoi vous parler.
Certes, et du coup toi il y avait une raison, t'es conteur dans la vie, enfin il y a une raison pour laquelle tu t'es retrouvé sur la scène ouverte hier.
Bah, c'est vrai que j'aime beaucoup conter, j'ai pas souvent l'occasion de le faire, j'essaye de faire un peu des scènes, notamment des scènes ouvertes mais aussi parfois des prestations et du coup ça me fait vraiment plaisir de raconter ici à Vassivière parce que c'est un public qui écoute beaucoup et vraiment très attentif et surtout cette histoire là. Je pense que vous pourrez l'entendre, c'est une histoire qui parle beaucoup aux gens qui racontent eux-mêmes, c'est une histoire de transmission. Et je pense que là, j'avais le public qui était là pour, quoi. Donc je pense que c'est... Souvent, les conteurs le disent, c'est des histoires qui s'imposent à eux. Et là, pour le coup, vraiment, celle-là, je me suis dit, ah tiens, celle-là, je la raconterai bien.
Donc, elle est venue. Et du coup, moi, je me pose une question, c'est que, bon, je le dis pour les auditeurs, en fait, les scènes ouvertes, comme il y a beaucoup de monde et beaucoup de prénoms dans le chapeau, il y a un temps qui est imposé. Normalement, il ne faut pas dépasser 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il y a un peu le monsieur loyal de l'après-midi qui vient avec un balai et qui commence doucement à balayer en se rapprochant de plus en plus de celui qui raconte pour lui signifier que le temps est écoulé. Et je crois que c'était ton cas hier.
Ouais,
et
ouais.
Je me demande comment on le vit parce que ça doit être... c'est un peu stressant, c'est dur de se presser pour raconter une histoire.
Et on est plongé dans les images, on est là dans le désert avec les gens qui marchent et puis tout d'un coup, on a un balai qui vient apparaître dans notre imaginaire, donc c'est un peu perturbant, mais heureusement j'étais à la toute fin de l'histoire. Je pense à d'autres conteurs et conteuses qui eux n'étaient pas du tout à la fin de leur histoire et qui ont vu le balai arriver, qui ont essayé de se dépatouiller comme ils pouvaient. C'est pas évident, il faut savoir rester accroché à ce qu'on a tout en tirant la corde au maximum pour aller le plus vite possible. Et bon, on fait comme on peut quoi. Après il y en a certains qui savent déjà la longueur de leur histoire et d'autres comme moi, là, pour le coup, là, c'est vraiment tombé, mais pile poil, comme il fallait. C'était pas calculé, c'était parfait. Voilà, c'était parfait.
Donc, tu avais fini, tu avais bien fini.
J'avais fini.
T'as fini comme tu voulais.
J'avais
l'histoire.
Fini.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
Ok. Mais tu ne savais pas à l'avance, tu l'avais jamais raconté, en fait, vraiment.
À voix haute, comme ça, non. Ah, je l'avais déjà écrite, transmise par l'écrit et racontée, comme je vous parle là, à d'autres, mais jamais racontée comme ça sur scène devant d'autres personnes. Quoi. Et là, sortie parfaite sur pile 10 minutes.
Bah, c'était le bon flow, t'étais dans ton histoire.
C'est
quoi.
Ça, ouais, je pense, ouais. Ouais, vraiment.
Ok, bah, du coup, encore félicitations pour avoir
Merci.
Trouvé le mot du jour et avoir gagné le livre. Et du coup, c'est une transition absolument super parce qu'on va passer à la suite de l'émission et on devait commencer par autre chose, mais du coup, on va enchaîner avec ton conte, donc, dont tu peux me rappeler le vrai titre parce qu'on n'a pas le bon.
l'histoire de la corde selon l'épopée des Vacabanes.
Racontée donc par Colin dans le cadre des scènes ouvertes hier au festival Parole de Conteur.
Il y a un peuple qui depuis la nuit des temps marche. À certains, vous connaissez peut-être l'histoire de Toulmo, le père des pères, le premier qui est parti. Et après lui, il y en a d'autres qui l'ont suivi. Et ils ont formé avec lui les premiers vagabonds, ceux qui ont donné leur nom aux vagabonds, les Vacabanes. Et parmi eux, on se transmet des histoires par la bouche, par les mots. On déverse le sens, on déverse les paroles des ancêtres, on se les partage. Et une des histoires qu'on raconte, c'est l'histoire de la corde. Les vagabonds sont maudits en fait, dans leur histoire ils sont obligés d'avancer, ils sont obligés de marcher toujours, toujours vers le soleil couchant parce qu'ils doivent aller chercher le soleil. Et le soir, quand le soleil se couche, le soleil passe de l'autre côté, fait le tour, et quand le soleil à nouveau ressort, eux-mêmes se lèvent et continuent leur marche vers le soleil couchant. Alors ils marchent tout le temps. Et de ces journées-là, il ne se passe pas grand-chose, ils vivent majoritairement dans le désert, des terres très très arides. Il n'y a que quelques rares vallées dans lesquelles ils descendent pour trouver l'eau. Et dans ces vallées, parfois, ils s'arrêtent. Et mon histoire se passe dans l'une de ces vallées. Cette troupe de vagabonds avait marché toute la journée durant. Le soleil leur avait roulé sur la tête, avait réchauffé leurs crânes, leurs cheveux, leurs habits, avait réchauffé les bêtes qui tiraient les charrettes, les bagages qui traînaient derrière. Et doucement, dans le paysage, ils avaient vu la terre tomber, le sol s'assombrir, et des petites plantes apparaître, suivies par des buissons et des arbres de plus en plus grands. Et au fond de la vallée, entre les rochers, il y avait un petit ruisseau qui coulait, qui faisait comme un lacet, et qui repartait plus loin. Et toute la vallée était là comme pour accueillir ce ruisseau, et suivait le ruisseau comme ça, de long en long. Le chemin des Vacabanes, eux, traversait en perpendiculaire. Ils savaient qu'ils n'allaient pas rester là longtemps, mais quand ils sont descendus là-dedans, le cartographe, celui qui a la tête et qui connaît le chemin, avait levé la main comme ça, et tout le monde avait compris qu'on s'arrêterait pour la nuit. Alors on avait tout déballé, les tentes, les instruments de musique, la nourriture, on avait commencé à tout préparer, les enfants étaient partis jouer dans le ruisseau, et au milieu de la petite plaine que ça faisait, protégé par tous ces arbres, il y avait comme une pierre qui s'étendait comme une main sortie de terre. Alors les enfants l'avaient appelée la main du géant, ça faisait beaucoup rire. On avait commencé à se rassembler autour, on racontait des histoires, tout ça. On disait que le géant allait sortir de la terre et allait récupérer les gens qui venaient autour de lui. Ça faisait un petit peu peur aux enfants, mais on n'y croyait pas trop. Et alors on a fait la fête, on a mangé, le soleil s'est couché de l'autre côté. Et une fois la nuit tombée, autour du grand feu, on s'est tous rassemblés, on a préparé la journée du lendemain. Alors on a réparti les tâches, toi tu serais derrière, tu vérifierais qu'on ne nous suit pas. Toi devant, le cartographe comme d'habitude pour savoir où on va. Et quand on a eu bien compris que le lendemain on ne serait pas encore ici, il y a une main dans l'assistance qui s'est levée, doucement. Et moi, si je veux pas partir, tout le monde s'est retourné. Qu'est-ce qu'il y a, André ? Bah, et moi, si je veux pas repartir, bah, André, on repartira pas sans toi, voyons. Bah oui, mais je suis bien là, regarde. Regarde comme on est bien, les enfants dorment, on est tranquille autour du feu, il y a des arbres, on pourrait se construire des maisons. On pourrait rester là, non ? Mais André. Enfin, c'est nous, les Vacabanes, c'est nous, on marche, on suit le soleil, tu te souviens ? On a été maudits, c'est notre histoire, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais moi, je veux rester, moi, vous partez, moi, je reste. Vous pouvez partir si vous voulez, moi, je veux rester là, c'est trop bien, je veux rester là. Non, André, tu fais partie de la caravane. Si la caravane part sans toi, ce n'est plus la caravane. La caravane, c'est toi, moi, tous les autres. Nous sommes la caravane. Si tu ne fais pas partie de la caravane ne part pas. Mais je veux rester là, comprenez, je veux rester là, je veux plus bouger. Il ne savait plus quoi dire, il ne savait plus quel argument donner pour rester ici. Alors on l'a écouté, on l'a laissé dire, On l'a laissé pleurer. Il y a une grand-mère qui s'est levée qui a dit « Écoute André, dans la charrette là, il y a une grande corde, c'est la plus grande. On va l'accrocher à ta taille, on va l'accrocher au rocher et on va partir. Et comme ça, l'endroit restera toujours avec toi. C'est compris ? Tu resteras toujours ici. » Ça a un peu rassuré André. Il s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ils sont partis se coucher. Et le lendemain matin, alors que tout le monde rassemblait les affaires, que les enfants remontaient dans la charrette, ou que certains partaient en avant sur le chemin pour repérer avec le cartographe, la vieille est allée chercher la grande corde, s'est approchée d'André, a attaché la corde à sa taille, a attaché la corde au rocher, au gros doigt du géant. Et la caravane s'est ébranlée et a remonté doucement la vallée. Au début, tout allait bien, tout le monde était à sa place, on avançait. Puis petit à petit, dans la tête d'André, ça tournait. Et il se retournait aussi pour regarder derrière lui. Il voyait la corde qui se tendait entre les arbres. Il voyait le reste de la corde qui était à son épaule, qui se déroulait petit à petit. Il savait bien qu'au bout d'un moment, se tendrait et qu'il pourrait pas aller plus loin. Mais il se disait que pour l'instant, il y était encore. Pour l'instant, il était là. Il fermait les yeux et il se souvenait. La vallée, les petites plantes, les buissons, les arbres et le petit lacet qui continuait dans la vallée. Il y était. Et il avait les mains bien accrochées à la corde. Et la corde, bien que tombante de plus en plus, restait là. Il marchait, la forêt s'est faite buissonnante, la forêt s'est faite petite plante, la forêt s'est faite sol sombre. La forêt a disparu et a laissé place au sol sec qu'ils avaient toujours connu. Ils ont avancé avec le soleil derrière eux qui allait leur passer au-dessus de la tête. Quand tout à coup, quelque chose retenait André. La corde. La corde derrière était tendue. Je peux plus avancer. Et voyez, passer devant lui. Ses proches, ses amis, les enfants qui le regardaient, la vieille, qui a continué son chemin. Le gros de la caravane est passé, lui tirait pour essayer d'avoir un petit peu plus de corde, mais la corde restait tendue. Il a vu que tout le monde passait, il est resté 10 mètres derrière la caravane, il a crié « Hé ! Attendez-moi, je peux pas aller plus loin ! La corde, elle est tendue, je veux rester là, s'il vous plaît, restez avec moi, restez là, je peux pas, si je pars !» J'oublierai, si je pars, je ne serai plus au même endroit, s'il vous plaît, restez avec moi, restez ici, je ne peux pas, on doit partir, André. Plus ils avançaient, plus ils les voyaient partir, ils fermaient les yeux. Ils se souvenaient du lacet, ils se souvenaient de... Quand il a rouvert les yeux, la vieille était en face. Il a dit, je suis revenu. J'ai une deuxième corde pour toi. Continue de fermer les yeux. André a fermé les yeux une seconde fois. Elle lui a dit, concentre-toi. Pense à la vallée. Pense aux arbres, aux doigts de géant, pense aux lacets. Ancre l'image en toi. Tu y penses ?
Oui, j'y pense.
Pense-y plus fort. Pense-y encore. Pense aux enfants. Pense à la caravane quand nous y étions. Pense au grand feu. Et pendant qu'elle parlait... doucement, dénouer la corde autour de la taille d'André. Tu as bien l'image, André ?
Oui, je l'ai.
C'est bien. Tu tiens cette image maintenant. Tiens-la avec ta main. Vas-y, fais-le.
Je comprends pas, grand-mère.
Tiens-la ! Tu la tiens bien ?
Oui.
Maintenant, prends ma main. Non, ça c'est ma tête. Voilà, c'est bon. Avance.
Et André marchait, la vieille devant lui, et il tenait bien l'idée avec. Ils ont marché longtemps derrière la caravane, doucement, la rattrapant, doucement. La vieille lui donnait des conseils de temps en temps. Et petit à petit, André ne pensait plus à l'image. Il a fini par lâcher. Ouvrir les yeux, regarder la caravane, regarder le ciel, regarder les oiseaux qui passaient, la grand-mère à qui il tenait toujours la main. Ils ont continué de marcher comme ça, rejoint la caravane.
Au soir couchant, que le soleil leur était roulé dessus, il s'était arrêté en plein milieu du désert, un endroit où le cartographe savait qu'il y avait un puits. Ils se sont mis en cercle, ils ont préparé la journée du lendemain. Et une main s'est levée. Oui, André ? J'y suis encore. La vieille sourit. Et alors André a raconté. Il a raconté comment ils sont arrivés dans la vallée, comment ils ont vu d'abord la terre plus sombre et puis les petites plantes, les buissons, les arbres de plus en plus grands, la vallée au fond de laquelle il y avait ce petit lacet tout bleu qui repartait comme accueilli par les deux pans de la vallée. Il a raconté comment ils ont fait la fête, comment les enfants ont joué autour de la main du géant et comment ils sont repartis. Tout le monde l'a écouté. Et à ce moment-là, André a su que cet endroit-là, il y serait toujours. Et qu'il serait encore toujours dans la tête de tous ceux qui avaient entendu. Il a marché, ils ont tous marché. Et aujourd'hui, il marche encore. Et moi aussi. Je vais mettre un pas devant l'autre et sortir d'ici.
Radio Vassivière sur le festival Parole de Conteur à Offel. Radio Vassivière sur le festival Parole de Conteur à Offel.
Et oui, après cette petite pause littéraire, on est de retour sur le festival Parole de Conteur qui se tient toujours du 17 au 24 août près du lac de Vassivière à Offel. Et nous accueillons maintenant nos invités du jour. Il s'agit de Véronique Pétel et Nicolas Bourdon qui vont nous parler de leur spectacle ICO et qui vont aussi, je crois, nous raconter une petite histoire. Je te passe la parole, Fabien.
Bonjour Véronique, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, vous êtes au festival pour raconter l'histoire ICO. Ça a commencé ce matin, c'était la première ce matin. Il y aura un deuxième épisode demain, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi.
Alors, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas ce matin, c'était une version pour les plus jeunes, pour les 1-3 ans.
Okay.
Et demain, c'est le même scénario, mais on va un petit peu plus loin dans l'imaginaire, donc il s'adresse aux plus de 5 ans ou 3-5 ans. Voilà.
D'accord, vous adaptez le spectacle aux âges
aux
des
oreilles.
Enfants. Ok. ça parle de quoi un peu cette histoire ?
Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui passe ses vacances chez son grand-père et elle a une petite appréhension parce que chez son grand-père, eh ben, il n'y a pas de ligne, pas de fil, il n'y a pas d'électricité. Donc elle se dit que sans tablette, sans internet, sans télé, elle va s'ennuyer. Voilà, c'est à part de ça. Et eh bien, elle verra que sans télé, sans internet, sans tablette, sans console, juste sous un vieux parasol, on peut passer un temps très agréable et plein de fantaisie.
Donc c'est toi qui racontes l'histoire, Véronique. Et Nicolas, toi tu l'accompagnes à la musique.
Exactement. Ouais, moi, je suis là pour souligner la création, la poésie, la facétie de Véronique sur cette écriture et cette proposition.
Avec quel instrument tu joues ?
Il y a de la guitare, il y a le ukulélé, il y a l'ocean drum également. Voilà, l'idée, c'est vraiment on travaille beaucoup compté musique tous les deux. On avait eu la chance de se former auprès d'Armel et Pepo Odigan sur cet accompagnement et travail du conte et musique. Et l'idée, c'est vraiment de créer des paysages sonores au service du conte.
Comment vous avez trouvé cette histoire ? Elle existait ailleurs ou vous l'avez inventée ?
Alors elle n'existait pas ailleurs, mais en creusant un peu, quand l'histoire est née, je me suis rendu compte que lorsque j'étais enfant, j'étais gardée par une grand-mère qui venait repasser son linge à la maison. Et tout en suivant le fer à repasser de cette grand-mère, on entendait les histoires, les ritournelles qu'elle aimait nous transmettre. Et cette histoire-là, elle repose justement sur une planche à repasser. Et c'est à travers cette planche où la mer va monter, la marée va monter, et il y a tout un décor qui crée un univers marin. Et ensuite, les personnages sont en fait des fers à repasser. Donc on a Baby Fair, que je ne peux pas vous raconter là, parce qu'il manque un petit peu les autres personnages. Et voilà comment... Et je pense que l'origine de cette histoire, elle naît vraiment de mon enfance.
Vous est venue l'envie de raconter des histoires? Ça vient aussi de l'enfance, quand vous racontez des histoires?
Alors, très jeune, j'ai dit que je voulais raconter des histoires, effectivement, avec des animaux qui parlent. Alors, ça, c'est la parole d'un enfant de 7 ans qui passe une visite médicale, qui répond à la question comme je réponds aujourd'hui. Mais cette réponse, ça faisait sourire les adultes autour de moi. Et je me disais que ça ne devait pas être très sérieux, en fait. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai retrouvé cette perle au fond de ma poche et qui me montrait qu'en fait, c'était peut-être cette perle-là que je pouvais développer. Celle de faire parler des personnages, alors que ce soit des animaux ou même des fers à repasser.
Et toi, Nicolas, tu racontes aussi des histoires. Hein,
oui, tout à fait.
Pas cette année, là, au festival, là, tu fais plutôt de la musique, mais...
Alors, le rapport souvent au conte, c'est souvent un rapport de l'enfance. Moi, j'ai le souvenir de mon papa qui me racontait, vraiment le premier souvenir que j'ai, c'est l'histoire de cet album de John Burningham, Trubloff, la petite souris qui voulait jouer de la balalaïka. Et je crois qu'en fait, il a posé toutes les bases qui était là, la musique, le voyage, le conte, et puis, comme on dit chez les conteurs, cette envie, ce besoin de mettre le chemin sous ses pieds. Après, je suis aussi là j'ai la chance sur cette édition de présenter un extrait de mon spectacle, Patahouette et Patatras, à la journée professionnelle.
Qui aura lieu vendredi.
Exactement. Et là, c'est plus un héritage de mon grand-père et de la langue qui naissait en Algérie quand elle était française, de ce creuset de culture et de communauté. Donc, symbole de paix et de vivre ensemble, le Patahouette.
Alors, justement, tout le reste de l'année, vous racontez des histoires, vous passez votre temps à faire ça?
C'est en grande partie ça qui relie notre couple, hein, parce que ça devient comme un enfant qui grandit. Et quand un enfant grandit, il court devant nous, et c'est ce qui se passe. Donc, on raconte pour les petites oreilles, toutes petites oreilles comme ce matin. Et puis, on a la chance de pouvoir... ouvrir d'autres portes, celles des plus grands, et même voir des personnes seniors. Mmh. Voilà.
Mais c'est ce qu'on peut dire, c'est que le festival, c'est le festival du conte, mais c'est vraiment pour tout le monde, hein, tous les âges. Hein, ici, il n'y a pas que des enfants. Hein, les histoires sont adaptées un peu à tous les publics. Et vous, donc, ICO, on l'a dit, là, ce matin, c'était pour les 1-3 ans. C'est pas facile, hein, à cet âge-là. Hein.
Oui, mais justement, l'univers des fers à repasser ramène les grandes personnes à écouter et rire. Et le rire, l'émerveillement des adultes, pas forcément, rebondit sur les petites oreilles qui se prêtent au jeu également. Et bon, puis il y a toute la musicalité de Nicolas qui m'accompagne, j'ai cette chance. Et donc les tout-petits sont là avec effectivement toute leur sensorialité, donc ils ont besoin d'entendre. Ce matin, on les a un peu fait participer avec des instruments et puis avec aussi leur toucher. Voilà.
Ouais, Constance,
moi, il y a une question que je brûle de poser quand même, une question bête, mais je suis sûre qu'il peut y avoir des réponses intéressantes. C'est à quoi sert le conte? À quoi ça sert de raconter des histoires? C'est quoi le but? Est-ce que c'est que le divertissement ou est-ce qu'il y a...
On n'aura peut-être pas la même réponse avec Nicolas et moi. C'est pas concerté. Hein. Là, aujourd'hui, je pense que c'est un peu comme... quand on fait un bord, une couture pour retenir le fil sur un vêtement, et c'est cette espèce de revers qui fait que le fil ne va pas s'effilocher. Et moi aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me crée une rive, un rivage, une place où je peux marcher et sans qu'il y ait cette vie qui part n'importe comment à volo. Voilà, ce serait ma réponse d'aujourd'hui, ce sera peut-être pas celle de demain.
C'est une réponse de conteur, j'ai envie de dire.
Ouais, moi je dirais que le conte, c'est ce qui permet de continuer à allumer les réverbères. Voilà.
Une autre réponse de conteur.
Ça permet de continuer à rêver, mais également de réfléchir, de questionner. Et c'est un espace de liberté. Et on sait à quel point aujourd'hui ces espaces-là, ils sont précieux. Et voilà, je crois que vraiment le conte, c'est ce qui permet de continuer à allumer les réverbères.
Merci.
Avec Constance, on vous avait vu à Mérinchal, à l'est de la Creuse, et il y avait des scolaires. Donc c'est, j'imagine que c'est beaucoup ça au long de l'année. Vous faites beaucoup d'interventions, des spectacles pour les écoles. Il y a aussi cette dimension pédagogique, peut-être, dans les histoires.
Ah ben déjà, moi, j'ai une fonction qui m'amène à cumuler deux fonctions. Donc forcément, le petit regain pédagogique, il est toujours là, puisque je suis d'abord prof des écoles à l'origine. Mais je dirais que ce n'est pas forcément sur ça qu'on voudrait s'appuyer aujourd'hui.
Ouais,
plus de développer l'imaginaire.
Je crois que le conte, en fait, il a sa propre force, sa propre puissance. Et c'est pas nécessaire de lui prêter une vertu pédagogique. En tant que conteur, non. Et c'est bien pour ça, vous posiez la question de quelle est l'origine du conte chez les uns, chez les autres. Souvent, on l'a hérité de nos parents, grands-parents. Et en fait, dès le départ, c'est juste un héritage. Et nous, on est là pour perpétuer cet héritage et on est simple passeur. Le conte était là avant nous, il sera là bien après nous et il a sa propre force intemporelle et chacun dans le public va le recevoir différemment en fonction de son moment de vie, de son moment de journée, de là où il en est. Et donc c'est illusoire de vouloir prêter des fois une intention au conte. Il a déjà sa propre intention et sa propre force. Et quand bien même on voudrait des fois lui faire dire des choses, des fois il est vraiment réceptionné totalement autrement. Donc je crois que, oui, bien sûr, il a une vertu pédagogique. Je disais qu'il allume les réverbères, il nous permet de cheminer. Mais
pied.
Mais pas que, voilà, il a vraiment sa propre force lui-même. Nous, on est simples passeurs.
C'est pas la première fois qu'on vous voit sur ce festival ici, Parole de Conteur, au bord du lac de Vassivière. L'année dernière, vous faisiez La Clé des Champs, un temps qui a changé cette année. C'est quoi un peu votre histoire avec le festival? Ça fait combien de temps que vous venez là?
Alors, pas qu'on se trompe, hein, parce que la première fois qu'on est venu, on s'est simplement inscrit à un stage de couture avec Cécile Pouget qui est toujours là. Et Nicolas avait créé un énorme poisson et qui aujourd'hui est dans ICO. Donc il y a quand même un fil rouge dans cette histoire. Et après, c'est la belle rencontre avec Armel et Pepo Odigan lors de l'instant Manouche qui nous a fait cheminer avec eux, grâce à eux, maintenant installés en Brenne, qui nous a permis aussi de nous former, de les rencontrer, d'affiner notre voix, VOIE et VOIX. Et puis, ben, on est encore là.
Oui, je crois que c'est vraiment ça. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour. On est vraiment tombé en amour sur le travail d'Armel et Pepo lorsqu'on est venu. Ça a vraiment été un coup de foudre artistique avant d'être un coup de foudre amical. Et l'année d'après, il y avait un stage qui était organisé. On s'est dépêché de s'y inscrire et puis on a continué à se croiser, à lier connaissances, lier amitié et jusqu'au plaisir de cheminer avec eux. Et je parle d'Armel et Pepo, mais c'est vrai que Vassivière, il y a un petit peu un côté presque une fête de famille. Chaque année on vient, on retrouve aussi plein de conteurs qui reviennent chaque année ou qui ont plaisir de venir finir l'été ici, et ça donne vraiment l'impression d'une grande fête de famille où on a juste le grand bonheur de se retrouver, de se raconter ce qui s'est passé dans notre année et juste le plaisir de partager ces moments ensemble.
Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez une petite histoire. Une histoire. comment elle s'appelle cette histoire? Est-ce qu'elle a un titre?
Quand on en parle entre nous, on parle des cinq pêcheurs et après... Ouais, je reste sur les cinq pêcheurs. Peut-être qu'à la fin, il y aura un autre titre.
Et Nicolas, là, tu as joué du ukulélé, hein, c'est ça?
Tout à fait.
Ok, et bah, c'est parti, on vous écoute.
Cette histoire-là, elle se passe sur une île. Une île au large de la Sicile. Une île de la Méditerranée. Sur cette île... La terre, baignée de soleil, est couverte de vignes et de vergers. Là-bas, la pierre est creusée par les vagues. Une île où les plages sont couvertes de galets gris. Et c'est justement à l'entrée d'une de ces plages, juste près d'un village, que se retrouvent cinq hommes, cinq pêcheurs. Ces cinq-là se connaissent depuis l'enfance. Autrefois, ils partageaient leurs billes à l'école. Mais aujourd'hui, c'est un bateau de pêche qu'ils partagent. Amis, unis comme les cinq doigts de la main. À cette main d'homme, chacun a son importance. Quand l'un est là, pour montrer le courant en mer qui assurera une bonne pêche, l'autre est là, au moment de relever les filets, avec sa force, son énergie. Sur terre, quand l'un est là pour manier l'aiguille de ramandage qui réparera au mieux les filets, l'autre est là, au moment du déjeuner, pour faire frire les petits poissons. Mais à cette main d'homme, il y en a un plus petit. Toujours dans la lune, un peu poète. On le charrie, on s'en moque parfois. Il s'appelle Giulio. Mais au village, tout le monde le connaît sous le nom de El Mignolo. La vie est belle et tranquille sur cette île. Quand les filets des hommes sont pleins de poissons, les rougets, les bars, on va les vendre sur le marché. On les échange même contre quelques bonnes autres choses à manger. La vie est belle et tranquille sur cette île. Quand les fourneaux des femmes sont pleins, les femmes, on les entend chanter derrière leurs casseroles. Et voilà qu'un été. Un été, le soleil tape tellement fort que la terre devient dure. La terre devient sèche. La terre devient presque aussi grise que les plages de Galles. Et pour comble de ma chance, voilà que nos cinq pêcheurs rentrent les filets vides. Pas de petits poissons à faire frire ce jour-là. Alors, on se partage un petit morceau de pain, quelques olives, quelques câpres, et on les mâche longtemps pour se donner l'illusion d'un vrai repas. Le soir, en voyant leur mari rentrer, la mine penaude, le corps là, les femmes ont déjà compris. Elles ont déjà compris qu'elles n'auront rien à cuisiner. Et c'est justement cette semaine-là. C'est justement cette semaine-là qu'El Mignolo, à l'heure du déjeuner, au lieu de prendre le pain, les olives, les câpres, non, lui, le voilà qui refuse. Il prétend qu'il a assez dîné la veille au soir. Hé, mes amis, Ida, vous la connaissez, c'est une excellente cuisinière. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, lorsque je suis rentrée, elle m'avait préparé des cannelloni. Et elle les avait préparés comme on fait ici chez nous, avec de la bonne viande hachée, les herbes cueillies tout là-haut dans la garrigue. Ah les amis, ça sentait bon. Je me suis servi comme un roi. Les quatre autres pêcheurs se regardent sans comprendre. Comment leur ami Giulio peut-il s'acheter de la viande hachée alors qu'ils n'ont rien dans leur filet? À l'entendre parler des bonnes herbes de la garrigue, ils en ont les papilles tout émoustillées. Et le lendemain, à nouveau, à l'heure du déjeuner, alors que nos cinq hommes pêcheurs rentrent, sans rien dans leur filet, on échange ce simple repas. Et voilà El Mignolo qui secoue la tête. Non, mes amis, non merci. Non, j'ai assez dîné hier soir. Et lorsque je suis rentrée, cette fois, Ida, elle avait préparé des arancini. Eh oui, avec la scaramuzza, des petits pois. Et le tout parfumé au safran. À nouveau, les quatre autres pêcheurs se regardent, se questionnent. Comment El Mignolo peut-il s'acheter de la scaramuzza, ce fameux fromage fumé? Alors que du poisson, on n'en a pas. À l'entendre parler ainsi, à nouveau, ils en ont l'eau à la bouche. Et le lendemain, à l'heure du déjeuner, alors que le soleil tape, alors que les filets sont vides. El Mignono, à nouveau, raconte le dîner de la veille. Ah, mes amis, lorsque je suis rentrée hier soir, Ida, elle s'est surpassée. Oui, vraiment. Dans mon assiette, il y avait 2 tranches de gigot d'agneau, cuit à la pancetta, enduit de piment. Et avec ça, une polenta, crémeuse, onctueuse à souhait. J'en ai repris 3 fois. Alors aujourd'hui, non, ça va. Je ne mange pas. Vous pouvez vous partager le reste. Et à nouveau, les hommes se regardent sans comprendre. Ils sont rentrés bredouille et entendre Julio parler de polenta. Ils ont le ventre qui gargouille. Et la semaine se termine ainsi avec Julio qui parle de ses déjeuners, dîners, copieux, garnis. Alors, à la fin de la semaine, les 4 autres pêcheurs vont parler à leurs femmes. Et les femmes écoutent, les femmes entendent, mais elles n'y vont pas par 4 chemins. Tiens, il faut rendre visite à Ida. Et c'est ce qu'elles font. Le lendemain, on voit traverser le village les 4 femmes se diriger vers la maison de Julio. Ida est là, sur le perron. Elle est contente de l'avoir de la visite. Elle range ses quelques mèches de cheveux dans son foulard. Elle plisse son tablier et invite les femmes à entrer. Ensemble, à l'intérieur, on échange quelques potins. On parle de tout, de rien. Ici, sur l'île en Sicile, jamais du lendemain. Alors, très vite, on en vient au fait. Dis-nous, Ida, que vas-tu cuisiner ce soir lorsque ton homme va rentrer ? Oh, aussitôt le visage de Ida s'assombrit. Mes amis, sans le sou devant moi, je ne passe guère de temps derrière mon fourneau. Nous le savons, Ida, nous le savons, mais dis-nous, qu'est-ce qu'il y aura dans l'assiette d'El Mignono ce soir ? Raconte ! Eh bien, puisque vous insistez, mes amis, quelques racines au goût de terre, quelques pommes de terre de l'année dernière et quelques herbes au goût amer. Ah, mes amis, la vie est bien triste sur cette île, quand les filets de nos hommes sont vides. La vie est bien triste sur cette île, Ida, tu as raison, quand nos fourneaux ne fonctionnent plus, nos marmites sont vides. Et le soir, chacune dans leur maison, les femmes racontent à leurs hommes. El Mignono vous a menti. Nous le savons bien, nous, que Ida se lamente derrière son fourneau. Nous lui avons rendu visite et je pense que El Mignono n'est qu'un menteur. Alors le lendemain, à nouveau, sur la plage des Galégries, nos 5 pêcheurs se retrouvent pour un simple déjeuner. Et cette fois, ce sont les 4 hommes qui pressent Julio de raconter. Allez, dis-nous ce qu'il y avait dans ton assiette hier soir. El Mignono, raconte. Ah, mes amis, hier soir, si vous saviez, basta chuta, Julio. Nous le savons bien, nous, que ta femme se lamente derrière son fourneau, tout comme les nôtres. Tu n'es qu'un menteur, mentitore, impostore, basta chuta. Oui, c'est vrai, je vous ai menti. Comme je n'avais rien, je rêvais de festin. Alors, j'ai fini par croire à ce que je vous racontais. Et ainsi, j'ai pu tromper ma faim. Et Julio baisse la tête. Et lorsqu'il la relève, ses yeux brillent à nouveau. Mes amis, racontez-moi à votre tour ce que vous n'avez pas mangé hier soir. Faites-moi saliver d'envie, gargouiller de plaisir. Racontez-moi. C'est ce qu'ils font. Durant ce temps de disette, durant ce temps où le soleil chauffe, assèche la terre, les 5 pêcheurs à l'heure du déjeuner se sont remplis, ils se sont farcis, ils se sont enduits, ils se sont gavés, gavés de mots.
Bravo, bravo. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Nicolas. Bon, j'espère que... Non, on n'a pas encore mangé, alors j'espère qu'on n'aura pas besoin de se raconter des histoires pour tromper notre faim. bon, on vous remercie beaucoup d'être venu. Alors, je rappelle qu'on peut vous retrouver demain matin sous le chapeau à pois à 10h pour l'histoire ICO. Cette fois, l'histoire sera adaptée aux enfants de 3 à 5 ans. Voilà.
Et plus si affinité.
Et plus, bien sûr, bien sûr.
Merci.
Merci, bon festival à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, un petit générique et on passe à la suite de cette midinale en direct du festival Parole de Conteur.
On approche de la fin de cette midinale, mais avant de terminer, c'est l'heure de la boutique des idées.
La boutique des idées, le collectif Sonar, présente les capsules sonores d'un diagnostic de territoire qui s'est appelé de proche en proche. What you say?
L'exposition sonore qui donne la parole aux habitants et aux habitantes et la restitution du diagnostic de territoire commandé par la boutique des idées et menée par l'atelier Sonar. Durant plus d'un an, ceci est un véritable portrait sensible. Vous trouverez les visages, les lieux, les voix sur les ondes de votre radio locale préférée. C'est une nouvelle chance de découvrir les créations sonores d'Estelle Coquin et Aline Chambras, mise en espace par Caroline Paul, ainsi que les dessins, vidéos et photographies de Morgane Defay.
Tiens, les transports, allez.
Ah bah les transports, je sais pas.
Dans les campagnes, ce qui est compliqué, c'est vraiment les moyens de transport. Tout ce qui est transport en commun, tout ça, enfin, on n'a pas.
C'est vrai, ça manque. Je suis sûre qu'un tas de personnes ne se déplacent pas, justement par rapport au transport. Et c'est le problème, je pense, de tous les petits bourgs.
Bon, après, c'est vrai qu'il faut faire tout de suite 30 km pour faire ses courses, pour trouver, ne serait-ce qu'aussi faire des activités. Quand on a des enfants, si on veut les amener au basket, il faut faire 30 km. La piscine, c'est pareil, enfin, ce genre d'activité, il faut faire tout de suite. Ça, c'est problématique.
Minutes de voiture, est-ce que c'est vraiment une contre ? L'hiver, allez, l'hiver.
Ouais, ça va bien, tant que je peux conduire.
Ouais, c'est ça, faut une voiture.
Faut une voiture.
Ça, c'est sûr. Voilà, ici, on fait rien sans voiture.
On est dépendant des voitures, clairement, et des voitures individualisées, parce que...
Si tu n'as pas de permis ici, c'est un peu compliqué et tout, et... parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus qui passent tout le temps, et c'est vraiment compliqué.
Des fois, je suis en panne, je ne peux pas aller, je suis obligé de prendre le bus, quoi. Et puis attendre. C'est un peu embêtant d'attendre.
Voilà, je trouve que cette dépendance à la voiture, elle est... C'est vraiment un sujet d'actualité, en fait. Et donc, c'est quoi les alternatives ?
Je ne sais pas.
Il faudrait que les choses viennent, on va dire... Pas à domicile, bien sûr, mais enfin, plus près de chez nous, au plus près de chez nous.
Je me souviens, on avait un boulanger qui passait deux fois par semaine, et on avait aussi un épicier qui passait deux à trois fois par semaine. Alors sincèrement, vous voyez, c'était les foutre trucs, comme on l'appelle, en camion, il passait. Il s'arrêtait dans le village, on avait quoi, même pas 100 mètres à faire, c'était bien. Là, vous voyez, je suis obligé de prendre ma voiture et ça m'embête, ça nous embête fortement.
Aller dans les villages, chercher les personnes isolées, pourquoi pas.
Voilà, une navette, parce que parce que moi, je ne veux pas obliger mon mari, c'est lui, parce que moi, je ne conduis pas, je n'ai pas passé mon permis de conduire. Donc, ce qui fait, puis qu'on a toujours habité la région parisienne, donc c'est ça qui serait bien, vous voyez. Ce serait une bonne chose, ça, voilà.
Après, je ne suis pas persuadée que le fait d'avoir des transports... va inciter les gens à se déplacer.
parce que nous, on habite, il y a le système d'Aglobus, et il ne fonctionne pas du tout. Enfin, les gens ne s'en servent pas.
On voit que les usagers, même qui sont dans les communes un peu excentrées de Guéret, mais qui font partie de l'aglo, ont la possibilité de passer un appel pour dire qu'ils ont besoin d'un transport à la demande. Du coup, ils voient si c'est possible d'arranger la personne pour bénéficier d'un transport public à la demande, quoi. Chez nous, ça s'est pas développé. C'est compliqué à mettre en place parce que c'est des services qui coûtent très très cher, hein.
Peut-être plus ce système de dire moi j'ai ma voiture, si la petite dame elle veut que je l'emmène à Guéret, je l'emmène à Guéret, ça marcherait peut-être plus.
Quand quelqu'un va à Guéret, bon, on y va en même temps, quoi. C'est le même voyage.
Il y a des initiatives qui sont faites et qui, quand elles sont saisies, se font. Et ça, c'est très bien de covoiturage. Elles sont quand même pas évidentes à mener chez nous parce qu'on travaille tous sur des pôles de services différents, des horaires différents et du coup, pas forcément évident à mettre en place. On a aussi le fait que on a les enfants à amener à l'école. Enfin,
On s'organise dans des groupements d'achat, on s'organise dans des activités. Parfois, on organise des activités ici. On essaye quand même de limiter les déplacements.
Donc, nous, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'on va rester là en pleine cambrousse ou est-ce qu'on va se rapprocher d'une petite ville?
Moi, mes copines, c'était soit à Toron ou à Pont-Arion et même vers Sardan. Donc, ça commence à faire toujours un petit peu loin, 15 km à vélo. 8-9 ans, non. Donc après, très vite, moi, à 14 ans, on a toutes passé le permis pour conduire le scooter. Donc ça a été la liberté, c'était génial.
Je suis en vélo. C'est vrai que c'est pas très adapté. Là, ma localisation n'est pas adaptée pour rouler en vélo. On a la départementale qui est à côté. Elle n'est pas très sympathique.
Et donc, c'est quoi les alternatives?
Déjà, je remettrai les gares en état. C'est sûr. Moi, en plus, j'adore les gares. Enfin, vraiment, l'ambiance gare, j'adore ça. Et le train, j'adore. Franchement, si on pouvait tous se déplacer en train, ça serait juste génial. Donc ça, première chose. Des gares, mais de partout, dans la moindre commune, qu'on puisse faire tout le territoire en train. Génial.
On a discuté une fois sur des choses que on aimerait bien rêver dans le coin. Et on en était venu à imaginer des arrêts de stop un peu décorés pour rendre visible le fait qu'il y a des stoppeurs, que les stoppeurs et les stoppeuses sont des gens gentils, en fait. Ils ne vont pas vous mordre. Voilà, un peu mis en scène comme une ressource qu'on a ici. C'est la solidarité entre usagers.
J'ai un rêve, c'est qu'en fait, on se promène tous en calèche. Moi, j'aimerais réintroduire les chevaux et les calèches. Alors, je ne connais pas du tout les chevaux. Hein. Je monte pas à cheval et tout. Mais moi, j'aimerais redécouvrir la vie au rythme des calèches.
Eh ben moi, j'aimerais bien avoir une machine pour me téléporter et téléporter les gens avec moi d'un endroit à un autre. On gagnerait et du temps et de l'argent.
Ah oui, de la volatilisation. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, se téléporter de ici jusque là-bas. Voilà, de la téléportation, même à l'école. Comme ça, je suis pas obligée de prendre le bus.
Pour réécouter ces capsules sonores et les autres, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Radio Vassivière et sur le site internet laboutiquedesidées.fr. Vous pourrez y découvrir l'exposition virtuelle et toutes les informations des activités de la boutique.
Radio Vassivière sur le festival Parole de Conteur à Offel.
Et je vous ai dit tout à l'heure que la boutique des idées allait conclure cette émission. Et en fait, non, nous avons un invité surprise. C'est un peu le jour des invités surprises aujourd'hui après Colin. Nous accueillons maintenant Nayan qui va nous déclamer un poème qui s'appelle La goutte de pluie de Jules Supervielle. À toi, Nayan.
Bonjour, merci. Donc, La goutte de pluie de Jules Supervielle. Je cherche une goutte de pluie qui vient de tomber dans la mer. Dans sa rapide verticale, elle luisait plus que les autres. Car seule entre les autres gouttes, elle eut la force de comprendre que très douce dans l'eau salée, elle allait se perdre à jamais. Alors je cherche dans la mer et sur les vagues alertées. Je cherche pour faire plaisir à ce fragile souvenir dont je suis seul dépositaire. Mais j'ai beau faire, il est des choses où Dieu même ne peut plus rien, malgré toute sa bonne volonté et l'assistance sans parole du ciel, des vagues et de l'air.
Merci Nayan, merci beaucoup, merci d'être venu nous rendre visite. J'ai cru comprendre que peut-être nous te reverrons, enfin nous te réentendrons pour les auditeurs et auditrices cette semaine et que tu repasseras peut-être déclamer d'autres poèmes. Tu seras notre invité surprise de la semaine.
Avec grand plaisir.
Merci Nayan.